Non, Bertrand Jourdan, notre conférencier de ce soir, il a été directeur de recherche au CNRS et il est conseiller à la Génopole de Marseille-Nice. Il est né en 1939, doctorat d'état de physique nucléaire en 1965 et ensuite une reconversion vers la biologie moléculaire. Il a été chercheur au CNRS, principalement au centre d'immunologie INSERM CNRS de Marseille-Lumini qu'il a dirigé. Il a plus tard fondé la Génopole de Marseille et il l'a dirigée jusqu'en 2002. Sa bibliographie en tant que chercheur est considérable dans les publications spécialisées, mais il a publié aussi un certain nombre de livres et d'essais touchant à la génétique et à ses implications pour la société, des livres qu'on appelle de vulgarisation. Je ne les citerai pas tous, ils sont sur notre site internet. Je vous indique les plus récents, Les marchands de clones aux éditions du Seuil en 2003, Le clonage, fantasme et réalité, essentiel Milan à Toulouse en 2004, Thérapie génique, espoir ou illusion et chez Odile Jacob en 2007, et enfin, tout récemment, en février 2008, L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races, qui est paru aux éditions du Seuil. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment le conférencier. Il aurait pu parler de plusieurs autres sujets, d'ailleurs, dans cette série. Je vais lui passer la parole pour une cinquantaine de minutes, comme d'habitude, un peu plus, même s'il le souhaite. Et puis ensuite, je reviendrai pour la série des questions. Voilà. Merci beaucoup.
Bonjour. Merci de m'avoir donné cette occasion d'intervenir sur ce sujet qui est à la fois important et délicat et sur lequel il y a des données vraiment très très récentes obtenues au cours des deux ou trois dernières années. Et merci aussi bien sûr à vous d'être venu m'écouter. Donc je vais entrer directement dans le vif du sujet. Voilà en fait la question que je voudrais traiter avec vous ce soir. Donc la lecture du génome humain, vous savez que ça date déjà de quelques années, mais en fait il y a depuis un ensemble de progrès techniques qui font qu'on est capable, bien sûr je vous en parlerai plus en détail, de mesurer vraiment beaucoup mieux, infiniment mieux qu'il y a seulement 5 ans et encore plus qu'il y a 10 ou 20 ans, de mesurer les différences génétiques entre deux personnes, mais aussi entre un grand nombre de personnes et donc éventuellement entre différentes populations. Et donc la question, bien sûr, et ça se fait actuellement, en particulier aux États-Unis, on en entend des échos plus ou moins lointains de médecine ethnique, de médicaments raciaux, de recherche d'ascendance, etc. Et la question que je voudrais traiter, bien sûr, c'est est-ce que finalement ces données, est-ce que ça réintroduit quelque chose qui ressemble à l'ancienne notion de race, ou bien est-ce que c'est franchement différent ? Alors, je vais faire un tout petit historique rapide de l'idée de race entre guillemets, de race au sens fort. Donc, ça apparaît réellement appliqué à l'espèce humaine vers la fin du 18e siècle. Et on peut penser que ce n'est pas par hasard que ça apparaît à ce moment-là, puisque c'est en fait aussi l'époque des Lumières, l'époque de la première démocratie du monde, les États-Unis, puis de la Révolution française. Donc une époque où on parle beaucoup et on croit beaucoup à l'égalité, à la démocratie, tous les hommes sont égaux en droit et ainsi de suite. Et en même temps, c'est aussi la grande époque de la colonisation, de la traite des esclaves, de l'exploitation de populations qui sont pourtant des populations humaines. Et donc il y a une contradiction qui est évidemment très difficile à admettre, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement là, entre ces belles idées et la réalité de ce qu'on fait. Et une façon de s'en sortir, c'est de dire, oui, bon, les Africains, ce sont des hommes, ils appartiennent à l'espèce humaine, mais ils appartiennent quand même à une catégorie un peu spéciale, une catégorie primitive, une catégorie peu évoluée. Et donc, on peut comprendre qu'il soit autorisé et possible de les exploiter, de les asservir, parce qu'ils sont d'une race, entre guillemets, inférieure. Donc il y avait à cette époque vraiment une nécessité un peu idéologique de distinguer des races humaines, de distinguer des races au sein de l'humanité. Et bien entendu, tout au long de l'histoire de la notion de race, ceux qui la soutenaient ont toujours voulu la fonder sur la biologie, ont toujours voulu affirmer ou voulu prouver qu'elle était vraiment quelque chose, non pas de social, mais vraiment de biologique, et qu'on en trouvait les traces dans l'aspect des visages, par exemple, comme en témoigne ce dessin datant d'un livre du début du 19e, donc, qui vous montre par une mesure qui est l'angle facial, que le noir est l'intermédiaire entre le singe et l'homme. Ou bien, et on constate que ce genre de vision, il a continué à être présent pendant très longtemps, puisque dans la première moitié du XXe siècle, vous avez par exemple ce livre-là, qui est un livre américain paru en 1929, et qui traite de l'évolution du visage, depuis le poisson jusqu'à l'homme. Et qu'est-ce qu'on trouve comme intermédiaire entre le singe et l'homme? Eh bien, de nouveau, un indigène, il est désigné comme un aborigène d'Australie. Bon, clairement, ce sont des hommes, d'accord, mais ce sont des hommes d'une catégorie peu évoluée, inférieure et donc exploitable. Donc finalement, la notion, bien sûr, le mot de race est employé dans toutes sortes de sens. Il peut, dans la bouche de certaines personnes, avoir un sens très atténué, mais je dirais que la vraie notion, la version intégrale de race qui est présente la plupart du temps dans le discours, c'est l'idée que l'humanité est divisée en races, et le terme divisé n'est pas innocent, il y a des catégories qui sont bien étanches et on appartient à une catégorie ou à une autre, que ces races sont distinctes, pas seulement du point de vue de leur apparence ou de la façon dont on les catégorise, mais vraiment du point de vue biologique ou du point de vue génétique, à partir du moment où on commence à parler de génétique, et que le fait d'appartenir à une race détermine un certain type d'aptitude, certaines qualités, certains défauts, certains comportements. L'arabe est fourbe, le nègre est très musical, le juif est intelligent mais calculateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien sûr, dans tout ça, l'idée que les races sont fondamentalement inégales, et que bien sûr la race, la meilleure de toutes, c'est la race blanche, européenne, aryenne. Par définition, c'est ce qu'on trouve dans Gobineau, qui a écrit le traité de l'inégalité des races, qui a été un petit peu le résumé de toutes les idées en cours à cette époque sur l'existence des races et sur leur inégalité, comme il écrivait, naturelle, évidente et irrémédiable. En réalité, et comme l'ont très bien montré pas mal d'auteurs, par exemple Claude Lévi-Strauss, dans la notion de race, c'est quelque chose d'assez flou et d'assez complexe, et qui mélange des composantes de nature tout à fait différente. Il y a un élément culturel très important, le langage, l'habillement, la façon de se comporter, la façon de parler, les coutumes. Il y a aussi, on le verra peut-être tout à l'heure à propos des États-Unis, l'attitude de la société qui quelquefois par des règles institutionnelles met quelqu'un dans une catégorie plutôt que dans une autre. Et il y a effectivement aussi des caractères héréditaires, le plus évident étant la couleur de la peau, la forme de certains traits. Mais dans tout ça, en réalité, la notion sociale, la dimension sociale est quand même très importante. Par exemple, sur cette photo qui représente, vous voyez qui, Bush, son acolyte Colin Powell et Condoleezza Rice, il est évident, enfin, si on vous pose la question combien il y a de blancs, il y a 3 blancs et une noire. Néanmoins, Colin Powell est considéré comme noir, il est même un symbole de la réussite des Afro-Américains, puisqu'il a pu monter jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État, et il est universellement considéré comme noir et montrant et revendiqué comme tel, y compris par différents États africains. Donc ça montre bien à quel point tout ça est quand même assez dominé par une perception qui n'est pas strictement biologique. Alors, bien sûr, ce qui s'est passé ensuite, on le sait tous, c'est qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord, ce qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'existence des races était quelque chose de généralement admis, reconnu, affirmé, y compris par des penseurs dits de gauche, y compris par les scientifiques, bien sûr, et par des hommes d'État comme Jules Ferry qui parlait de la mission des races supérieures qui est de civiliser les races inférieures. Et bon, tout ça a été assez largement balayé à partir de 1945, bien sûr par la révélation des crimes du nazisme, par le mouvement de décolonisation, aussi en fait par, et on y reviendra, le fait que même si on constate des différences d'aptitude ou de performance entre différents groupes, il n'y a en réalité, quand on commence à y regarder de plus près, rien qui permette d'affirmer que ces différences sont dues à la biologie et non pas aux conditions de vie, d'éducation de ces groupes. Et aussi parce que on a réellement eu la preuve que l'homme moderne, l'homme de Cro-Magnon, l'espèce à laquelle nous appartenons tous, était apparu en Afrique il y a relativement peu de temps, 150 ou 200 000 ans, et qu'elle s'était, à partir de l'Afrique, répandue sur l'ensemble de la Terre, selon un ensemble de migrations qui ont débuté il y a à peu près 70 000 ans, et qui l'ont amené à occuper l'ensemble de la Terre. Donc, si nous venons tous d'Afrique, c'est déjà un peu plus difficile de soutenir l'existence au sens fort et l'inégalité des races. Donc, voilà un peu, si vous voulez, mon petit rappel historique qui est bref et schématique, mais qui est probablement quand même utile. Et bien sûr, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est des données récentes, des données sur l'ADN et de ce que peut nous apprendre l'ADN sur l'espèce humaine, sur les différences au niveau individuel entre personnes et sur l'existence ou non de groupes humains. Donc l'ADN, c'est pas la première conférence dans ce cycle où l'on parle d'ADN. Cet ADN qui est présent dans chaque noyau de chacune de nos 100 000 milliards de cellules et qui porte les gènes qui permettent la construction et le fonctionnement d'un être humain. Cet ADN, l'ADN humain, vous savez qu'il a été lu. Alors, on dit souvent déchiffrer, décrypter, j'aime pas trop le terme parce que ça induit l'idée qu'on aurait tout compris. Mais en fait, comme on s'est bien aperçu, c'est qu'une fois qu'on a lu la suite des lettres dans l'ADN, la suite des bases T, A, G, C qui se succèdent le long de la molécule et dont l'ordre renferme la formule de fabrication des protéines. Donc, une fois qu'on a lu cet ADN, bon, on l'a bien lu, on a lu ces 3 milliards de lettres. Mais on s'est aperçu que ça ne suffisait pas à comprendre le fonctionnement de la cellule ou de l'être humain, ou d'ailleurs d'un organisme animal, au point qu'on ne sait toujours pas exactement combien de gènes il y a dans l'ADN humain. C'est de l'ordre de 20 à 25 000. La définition même du gène est devenue beaucoup moins simple et claire qu'elle ne l'était il y a 10 ou 20 ans. Bon, néanmoins, cette lecture de l'ADN humain, la lecture donc totale des 3 milliards de lettres, nous a appris beaucoup de choses. Et pour ce qui nous concerne en particulier, elle a confirmé que les différences entre deux humains pris au hasard étaient relativement limitées, donc que notre espèce était assez homogène. Si on regarde, alors nous avons bien sûr tous les mêmes gènes disposés de la même façon sur les mêmes chromosomes, mais ce qui nous différencie, c'est des petites différences dans la suite des lettres qui font qu'à un endroit donné d'un chromosome donné, je vais avoir un G alors que vous aurez un T, et ainsi de suite. Et donc le niveau de différence est de l'ordre d'une fraction de pourcent. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des différences ponctuelles, des différences non ponctuelles, on y reviendra ensuite. En tout cas, c'est un niveau qui est relativement faible et qui est par exemple beaucoup plus faible que celui que l'on peut observer entre deux populations de gorilles ou deux populations de chimpanzés qui sont nettement plus différentes les unes des autres que ne le sont les humains. Et cette homogénéité que l'on observe dans l'espèce humaine, donc là je ne suis pas en train de parler de groupe humain, mais simplement de l'ensemble des humains comparés les uns aux autres, elle traduit le fait qu'on est une espèce jeune, une espèce d'apparition récente. 200 000 ans, c'est pas beaucoup, et en 200 000 ans, les mutations et l'évolution n'ont pas le temps de provoquer beaucoup de diversification. Des espèces comme le gorille ou le chimpanzé ont probablement plusieurs millions d'années d'existence en tant qu'espèce déjà ayant ses caractéristiques actuelles. Le fait non seulement qu'on est une espèce jeune, mais que nous sommes une espèce qui a grossi tout récemment, puisque au début de l'agriculture, qui se situe il y a à peu près 10 000 ans, on peut estimer que la population humaine totale était d'à peu près 1 million d'individus. Donc on est passé de 1 million à 6 ou 7 milliards en 10 000 ans, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc, de nouveau, plus une population est grande, plus elle se diversifie. Mais quand elle est petite et puis qu'elle grossit brusquement, elle n'a pas le temps de se diversifier. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, cette population, elle n'est pas restée fixée en un endroit donné, d'un continent donné. Elle a migré, et elle a migré, elle a remigré. Il y a eu des mélanges, pacifiques ou non pacifiques, mais en tout cas, beaucoup de mélanges qui ont maintenu cette homogénéité. Et donc, ce qu'on a dit à l'époque, quand on a eu cette première séquence, cette première suite des lettres de l'ADN humain et cette valeur de 0,1% de différence entre deux personnes prises au hasard, on a eu tendance à dire, eh bien, vous voyez bien que les humains sont tous identiques à 99,9%. Bon, j'ai mis 99,5% parce que si on tient compte de différences qui ont été vues plus récemment, c'est plutôt ce chiffre-là. Enfin, de toute façon, nous sommes tous identiques à 99,9%, donc les races n'existent pas, et bien sûr, le racisme est absurde. Alors, ça partait d'une bonne intention, mais c'est quand même un petit peu léger comme argument. Bon, d'abord, c'est un peu contraire à l'expérience immédiate qu'on peut avoir, parce qu'effectivement, dans la rue, on distingue quand même assez facilement différents types humains qui correspondent à des grands groupes géographiques. Aussi parce que 0,1% de différence, d'accord, ce n'est pas beaucoup, mais c'est 0,1% sur 3 milliards, donc ça fait quand même 3 millions de différences. Bon, en plus, c'est plutôt plus que 0,1%, donc il y a quand même, entre vous et moi, plusieurs millions de différences dans l'ADN. Ça peut suffire à faire de nous des êtres très différents, et selon la façon dont ces différences sont réparties, ça pourrait aboutir à l'existence de sous-groupes franchement distinctes au sein de la population humaine. Bon, de toute façon, par rapport à la question du racisme, c'est pas parce qu'on est tous pareils qu'il faut être antiraciste, c'est un argument qui est tout à fait sur un autre plan. Alors donc, je reprends la question que je posais au début. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelle est exactement la nature de la diversité génétique humaine. Comment elle se répartit dans les populations et entre les populations, et en particulier une question sur laquelle qui est très concrète, c'est est-ce que si on me donne un échantillon d'ADN, je suis capable, d'ADN humain bien sûr, je suis capable à partir de cet échantillon de dire s'il provient de quelqu'un qui est plutôt d'origine africaine ou plutôt asiatique ou plutôt européenne et ainsi de suite. Alors, je reprends donc, je ne parle toujours pas de groupe, je parle d'individus. Donc si je prends deux personnes au hasard, on sait donc maintenant actuellement qu'on va trouver, que l'on lit leur ADN intégralement. Ce qu'on est, disons, maintenant capable de faire, c'est encore quelque chose qui est relativement long et relativement onéreux, mais c'est déjà plus de 1000 fois moins cher que quand on l'a fait pour la première fois, et ça va sans doute bientôt devenir beaucoup plus accessible. En tout cas, on trouve à peu près 3 millions de différences ponctuelles, donc entre votre ADN et le mien, bon, plus des différences qui portent sur des petits segments qui sont en double ou en triple chez certaines personnes, en simple chez d'autres. Ça, c'est vraiment très nouveau. C'est très récemment qu'on s'est rendu compte que ce phénomène était aussi général. On est encore en train réellement d'obtenir des données là-dessus. Je ne vais pas en parler par la suite, mais je peux vous dire que les premiers résultats ne changent pas la vision qu'on a en ne considérant que les différences ponctuelles. Donc je ne vais vous parler maintenant que des différences ponctuelles, parce que d'abord c'est quand même les plus importantes, les plus fréquentes, et puis c'est celles sur lesquelles on a suffisamment de données pour discuter. Donc de toute façon, chacun de nous porte, on a encore une fois tous les mêmes gènes disposés de la même façon sur les mêmes chromosomes, mais ce ne sont pas exactement les mêmes gènes, il y a des petites différences, et certaines de ces différences ont une influence sur la façon dont fonctionne le gène, sur la protéine qu'il fabrique ou sur la quantité qu'il en fabrique. Et c'est donc ces petites différences qui sont responsables de nos différences d'aspect, de physiologie, et qui également font que nous avons chacun notre lot de vulnérabilité. Je suis plus vulnérable que vous, par exemple, j'ai un risque de schizophrénie plus élevé que vous, par contre, j'ai un risque de diabète plus faible, et ainsi de suite. Et ces vulnérabilités, on commence réellement à être capable de les évaluer en faisant des grandes études sur des populations et d'identifier des gènes dont certains variants font que votre risque va être un peu plus élevé ou un peu plus faible que la moyenne pour telle ou telle maladie. Alors, ces différences, donc, comment est-ce qu'elles se présentent, où sont-elles? Alors, c'est ce qu'on appelle, en fait, les SNP. Alors, le SNP, c'est simplement une façon, c'est la prononciation d'une abréviation anglaise qui est SNP, pour Single Nucleotide Polymorphism. Ça veut simplement dire que ce sont des polymorphismes portant sur une seule lettre, les lettres qu'on appelle un peu indifféremment, c'est pas exactement la même chose, nucléotide ou base. Ce sont toujours les TACG, et donc il se trouve que ces changements, ils se produisent à peu près, on les trouve à peu près toujours aux mêmes endroits dans l'ADN de différentes personnes, c'est-à-dire que chez moi par exemple je vais avoir cette suite de lettres qu'on lit comme un texte, et puis à cet endroit-ci j'aurai un A alors que vous aurez un C, mais par contre jusque-là la suite de lettres sera exactement la même chez vous et chez moi. Et puis ensuite, on aura de nouveau une suite de lettres qui va être retrouvée exactement identique chez vous, chez moi et chez la grande majorité des humains. Et puis, un peu plus loin, on a un endroit de nouveau qui est variable, où je vais avoir, moi, un A, par exemple, et vous, un G, et ainsi de suite. Donc, ces endroits où il peut y avoir une lettre ou une autre, en général, c'est seulement une lettre ou une autre, c'est pas n'importe laquelle des quatre lettres. Ces endroits, c'est ce qu'on appelle des sites polymorphiques ou des SNP en abrégé. Et donc, il y en a à peu près un toutes les 1000 lettres dans l'ADN, donc ce qui correspond au 0,1%, 1 pour 1000 dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ce que je vous disais, c'est que donc à un endroit donné de l'ADN, vous pouvez avoir une version ou une autre. Pour les généticiens, on appelle ça des allèles. Donc, je peux porter soit l'allèle A1, dans lequel il y a un G à cet endroit-là, soit l'allèle A2, dans lequel il y a un A à cet endroit-là. Alors, je simplifie un peu parce que, comme vous le savez, on a tous deux exemplaires de chaque chromosome. Donc, en fait, il faut considérer les deux chromosomes. Je peux avoir deux fois le même allèle ou un allèle et l'autre allèle. Bon, ça complique un peu les calculs, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Donc, je vais continuer à discuter sans tenir compte de cette complication-là. Donc, nous avons donc, au niveau des différences ponctuelles, il y a à peu près 3 millions de SNP qui sont répertoriés, et il y a même plus de 3 millions, mais entre deux personnes prises au hasard, vous avez à 3 millions d'endroits des allèles qui diffèrent. Alors, j'en arrive maintenant. Alors, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Vous avez ces allèles qui diffèrent. Certains de ces SNP tombent dans des gènes et peuvent donc influer sur la façon dont ce gène fonctionne. D'autres, la grande majorité, tombent en dehors des gènes parce que dans l'ADN, les gènes proprement dits n'occupent qu'une petite partie de la place. Donc, Bien souvent, le fait d'avoir un allèle ou l'autre allèle d'un SNP n'a aucune conséquence ni sur votre santé, ni sur votre aspect, ni sur la couleur de votre peau, ni sur vos cheveux, ni sur votre aptitude à métaboliser l'alcool, ça n'a aucune importance. Mais ça permet de suivre l'histoire de cet ADN au fil des générations. Donc je passe maintenant à la question des groupes humains. Donc la question maintenant, en langage moderne et compte tenu des choses que l'on peut appréhender maintenant, c'est est-ce que ces SNP définissent des groupes humains ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va trouver systématiquement un allèle chez un certain groupe ? Par exemple, chez les Africains, on va trouver à certains endroits toujours l'allèle A1, et par contre, chez les Européens, aux mêmes endroits, toujours l'allèle A2. Si c'était le cas, on pourrait se poser légitimement la question de race humaine. C'est bien ce qu'on trouve chez les chiens de race, les chiens que l'on a sélectionnés. Chez les chiens, vous avez, bon, on a aussi séquencé, on a aussi eu l'ADN du chien, même de plusieurs races de chiens. Les chiens sont une seule espèce, c'est-à-dire que n'importe quel chien est au moins théoriquement capable de procréer avec n'importe quelle chienne. Et pourtant, on a réussi à différencier au sein de cette espèce des animaux aussi différents qu'un grand dogue ou un chihuahua. Mais ils appartiennent à la même espèce, tout comme les humains appartiennent tous à la même espèce. Mais chez les chiens, ces races qui ont été différenciées par l'homme se traduisent au niveau de l'ADN par le fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de SNP qui existent sous une forme chez le dogue et uniquement sous cette forme, et sous une autre chez le chihuahua et uniquement sous cette forme. Et donc, en analysant quelques SNP dans l'ADN d'un chien de race, vous pouvez déterminer sa race. Mais chez l'homme, ça ne marche pas comme ça. Si l'on étudie, alors on étudie des milliers de SNP chez des centaines ou des milliers de personnes, eh bien, on s'aperçoit que, quelles que soient les populations qu'on prenne les Yobada du Nigeria ou les Irlandais d'un village bien précis ou les Norvégiens, eh bien, dans chaque population, on retrouve tous les allèles. Presque à chaque coup. C'est-à-dire que, en fait, au niveau de, si on essaye de regarder les choses plus globalement, on peut montrer qu'à peu près 90% de la variabilité génétique humaine est trouvée à l'intérieur de chaque groupe. C'est-à-dire que chacun des groupes est presque aussi divers que l'ensemble de l'espèce humaine. Néanmoins, Et là, on arrive dans les données les plus récentes. Il y a, pour certains SNP, une petite partie des SNP, justement à peu près un dixième des SNP, certains allèles sont plus fréquents dans certaines populations. Ils ne sont pas exclusifs d'une population. Il n'y a pas un allèle qui est présent uniquement chez les Africains, un autre chez les Européens. Mais il y a des fréquences différentes, par exemple. Si je reprends mon SNP de tout à l'heure et ces deux allèles, dans une population donnée, vous allez trouver qu'il y a à peu près autant d'allèles 1 que d'allèles 2, 46%, 54%, alors que dans une autre population, vous trouverez beaucoup plus d'allèles 1 que d'allèles 2. Donc il n'y a pas de... Encore une fois... Chaque SNP en lui-même n'est pas exclusif à un groupe donné, il n'est pas non plus caractéristique d'un groupe donné, mais il y a quand même, pour certains SNP, une minorité, des différences de fréquence entre populations. Bon, vous êtes toujours avec moi. c'est un peu la partie un peu difficile, mais qui est vraiment centrale dans ce que je veux vous présenter. La question maintenant, c'est, puisqu'il n'y a pas de SNP exclusif, je ne peux pas utiliser d'allèles exclusifs, je ne peux pas les utiliser pour différencier des groupes, mais puisqu'il y a quand même certains des SNP qui existent préférentiellement sous une forme dans un groupe et sous une autre dans un autre, est-ce que si je regarde un ensemble de SNP, si j'en regarde des centaines parmi les plus différenciants, est-ce que je ne peux pas arriver, à partir de ça, à faire une analyse qui va me distinguer des groupes, on verra en quoi ces groupes ne sont pas des races, au sein de la population humaine. Et donc, c'est une étude qui peut être faite et qui, dont les résultats peuvent être représentés en utilisant ce qu'on appelle des arbres de proximité qui montrent les rapports entre individus par des branches, si vous voulez, dont la longueur indique le degré de proximité génétique. C'est peut-être compliqué à dire, mais c'est facile à appréhender. Donc, je vais vous montrer les résultats d'un travail de ce genre, donc qui avait porté sur une centaine de personnes et qui avait regardé un peu moins de 10 000 SNP chez ces personnes et qui avait essayé ensuite, alors des personnes bien sûr d'origine géographique diverse. Alors, si on prend sur les 8500 SNP qu'on a utilisés, si on prend les moins spécifiques, eh bien on a une image de ce genre dans laquelle, si vous arrivez à lire, vous avez ici par exemple quelqu'un qui s'appelle EU16, donc qui doit être un Européen, quelqu'un qui s'appelle JP6, donc qui doit être japonais, et quelqu'un qui s'appelle AF1, qui doit être africain. Donc vous voyez que là, l'analyse ne vous dit pas grand-chose. Vous remarquez peut-être des lignes qui se croisent, ça correspond à des familles. Vous avez ici la mère et ici l'enfant. Et évidemment, une mère et son enfant sont plus proches génétiquement que deux personnes prises au hasard. Mais sinon, il ne sort rien de très net. Mais c'est un peu normal parce qu'on a pris, sur les 8500 SNP utilisés, on a pris ceux qui étaient les moins spécifiques, c'est-à-dire qui avaient le moins de différence de fréquence entre populations. Et si maintenant on prend les 1000 les plus spécifiques, vous voyez que là, l'arbre se sépare très nettement en trois branches. Et vous retrouvez effectivement dans cette branche-ci les Japonais et les Chinois, dans cette branche-là les Européens, bon, avec un Européen un peu atypique qui sort un peu du groupe, et ici les Africains. Donc ce que montre ce résultat, qui a depuis, ça ce sont des données qui datent de 2004, mais qui ont été reproduites depuis sur des populations plus importantes avec des nombres de SNP plus importants, ce qui montre, ça montre qu'on peut bel et bien effectivement, par une analyse d'ADN, donner une idée de l'origine géographique ou de l'ascendance génétique d'une personne. Alors, ce qu'il faut insister sur plusieurs choses. D'une part, c'est une analyse génétique qui n'a rien à voir avec les empreintes ADN que l'on fait en criminologie ou pour la recherche de paternité. Les empreintes ADN, c'est une manipulation relativement simple qui regarde 4 ou 5 endroits dans l'ADN hyper variable et qui vous dit si oui ou non telle personne peut être le père de tel enfant ou telle personne peut être celle qui a laissé un cheveu sur le lieu d'un crime. Mais ce sont des analyses extrêmement simples qui regardent une toute petite partie de l'ADN. Ici, il s'agit d'analyses sophistiquées qui regardent un millier de points particuliers et connus pour être particulièrement variable selon les groupes considérés dans l'ADN humain. Mais néanmoins, donc, on peut bel et bien, encore une fois, à partir d'une analyse d'ADN humain, définir l'ascendance de la personne. Deuxième chose, c'est que vous pouvez remarquer ici que les Africains sont plus étalés que les autres. Et là, il s'agit de vrais Africains. Ce ne sont pas des Afro-Américains vivant aux États-Unis, ce sont des Africains vivant en Afrique. Ça traduit tout simplement le fait que l'homme moderne est apparu il y a 150 ou 200 000 ans. Il a évolué sur place en Afrique avant d'en sortir il y a 60 000 ans. Et donc, la diversité génétique humaine en Afrique est plus importante que dans le reste du monde. Voilà, donc ça, c'est un peu le point central de mon exposé. Et alors, je vais vous montrer tout de suite une application. Alors, oui, d'abord, je résume donc ce point central. Donc, la grande majorité des marqueurs génétiques, elles ne différencient pas entre les populations, et certainement pas si on prend les marqueurs un par un, mais si on choisit un nombre relativement important de marqueurs approximativement spécifiques, on peut effectivement différencier entre des groupes. Vous voyez tout de suite que par rapport à la définition classique de la race que je donnais au début, ce ne sont pas des groupes strictement définis, ce ne sont pas des groupes étanches, ce sont des groupes assez flous qui s'interpénètrent plus ou moins et qui ne sont révélés, encore une fois, que grâce à une analyse sophistiquée. Alors, voilà par exemple une application qui permet de discuter plusieurs questions intéressantes. C'est que on peut, maintenant qu'on a défini ces SNP qui sont particulièrement variables selon les groupes d'origine, on peut les utiliser pour étudier des individus dans une population donnée. Et ici, vous avez bien sûr une étude qui est faite aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que beaucoup des choses que je présente sont faites aux États-Unis? Bon, d'une part parce qu'ils sont quand même assez dominants dans la recherche biomédicale, mais en plus parce que sur la question de race ou d'origine, ils sont dans une situation particulière puisque c'est une nation où, lors des recensements, les personnes déclarent leur race. Les personnes cochent une case sur un formulaire pour dire s'ils sont noirs, blancs, amérindiens, ceci, cela. Je vous montrerai le formulaire dans une minute. Donc là, c'est une étude qui a été réalisée sur un ensemble de citoyens américains dont certains se déclaraient européens, caucasiens, blancs, c'est-à-dire la même chose. D'autres se déclaraient afro-américains et d'autres se déclaraient mexicains. Alors mexicain, ce n'est pas vraiment une catégorie très bien. C'est vraiment l'exemple d'une catégorie culturelle, mais c'est une des cases qu'on peut cocher dans le formulaire. Et donc, sur l'ADN de chacune de ces personnes, on a fait une analyse du type de celle que je vous ai présentée et on les a positionnées dans ce triangle par rapport à un point qui est le point de référence européen, le point de référence africain de l'Ouest, cette fois-ci vrai africain d'Afrique, et le point de référence indien d'Amérique. Et donc, vous voyez comment les gens se... Alors, bien sûr, les croix bleues sont ceux qui se disent européens, les cercles rouges sont ceux qui se disent afro-américains, et les croix verdâtres sont ceux qui se disent mexicains. Donc, vous voyez qu'effectivement, ceux qui se disent européens sont assez regroupés dans le coin des Européens, mais regardez comment se répartissent les afro-américains. Vous voyez que... Bon, Colin Powell, il est probablement quelque part par ici. C'est-à-dire qu'au niveau de son ascendance, il a probablement plus d'ascendance européenne que d'ascendance africaine. Mais aux États-Unis, il y a eu une règle qui a été pendant longtemps appliquée, qui était ce qu'on appelait la règle d'une seule goutte. C'est-à-dire que si une personne avait ne serait-ce qu'un ancêtre noir, elle était considérée comme noire. Et lors des recensements, l'autodéclaration de la race aux États-Unis est quelque chose de récent, ça date de 1970, mais auparavant, c'était coché par un recenseur, et si vous aviez un arrière-arrière-grand-père noir et tous les autres ancêtres maternels et paternels blancs, vous étiez classifié comme noir. Et du coup, vous avez beaucoup de gens qui continuent à se considérer comme noirs, alors que biologiquement, ils ont une ascendance plus proche d'une ascendance européenne. Ils ont une ascendance mixte, en fait, mais avec plus d'ascendance européenne qu'africaine. Donc, vous voyez, c'est l'afro-américain qui se répartissent presque sur toute la base du triangle. Et vous voyez les Mexicains qui, eux, s'étalent de l'Indien d'Amérique à l'Européen, ce qui se comprend bien quand on se souvient comment s'est passée la conquête du Mexique et de l'Amérique en général, de l'Amérique du Sud en général. Je vous montre juste le formulaire. Vous voyez, ça c'est le recensement de 2000. Donc, vous pouvez cocher blanc, noir, indien d'Amérique avec mention de la tribu, ou bien chinois, philippin, samoan, coréen, vietnamien, et ainsi de suite. Vous pouvez également cocher plusieurs cases, deux cases ou plusieurs cases, mais pour le moment, jusqu'à maintenant, c'est très peu utilisé, alors qu'en réalité, la majorité des gens ont une ascendance mixte. Je crois que le nombre de personnes qui cochent plus d'une case est de 2% à peu près des recensés. Donc, ces analyses donc, permettent effectivement de regrouper des personnes selon une ascendance. J'utilise... Dans cette présentation et dans le livre qu'on vous a montré tout à l'heure, le terme d'ascendance, Bien sûr qu'on pourrait dire race en donnant à race un sens, le sens d'ascendance en quelque sorte, mais justement ce mot, il a été tellement employé, il évoque tellement de choses dans la tête des gens, et en général ce qu'il évoque c'est plus le sens fort, que je pense réellement que ascendance est un terme beaucoup plus adapté. En plus il est assez précis, c'est quelque chose que l'on peut mesurer comme vous venez de le voir, et qui se prête très bien justement à décrire les ascendances mixtes. On peut faire une analyse qui va vous dire que vous avez majoritairement une ascendance africaine avec une contribution européenne et une contribution asiatique à peu près équivalente. C'est quantifiable et c'est compréhensible. Bien sûr, les groupements donc que l'on forme comme ça, ils ne sont pas étanches. Et il n'implique absolument pas une hiérarchie entre les personnes ayant ces différents types d'ascendance. Alors justement, la dernière partie de ce que je vais vous présenter, c'est commencer un petit peu, mais je pense qu'on continuera sans doute dans la discussion, commencer un petit peu à voir. Maintenant, on a parlé de génétique, d'une certaine façon, une génétique un peu désincarnée, des SNP, des points variables dans l'ADN, qui permettent de quantifier les différences entre personnes, qui permettent plus ou moins de regrouper des personnes en fonction d'une ascendance. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Est-ce que ça a une conséquence sur l'apparence, les performances, les aptitudes, les comportements des personnes? Et qu'est-ce que je voulais dire? Quelles sont réellement les conséquences physiologiques et autres de ces différences? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'en réalité, les gènes proprement dits n'occupent qu'une petite partie de l'ADN humain, quelques pourcents, et que donc la plupart des variations que l'on utilise et qu'on vient d'utiliser pour étudier la diversité génétique humaine, la plupart de ces variations se situent dans des zones de l'ADN qui ne sont pas utilisées, et donc que vous ayez à cet endroit-là un G, un A, un T ou un C, ça n'a aucune conséquence sur la personne. Mais bon, il y a quand même une petite fraction de ces SNP qui tombent dans des gènes. En fait, les données les plus récentes, disons, montre à peu près sur les 20-25 000 gènes que nous avons, entre deux personnes, de nouveau deux personnes prises au hasard dans cette salle, il y a à peu près 5 000 gènes dans lesquels il y a une différence, si vous voulez, qui change la formule de la protéine. La formule de la protéine qui est codée par ce gène dans la synthèse est dirigée par ce gène. Alors, la protéine est différente, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne différemment. Elle peut avoir une structure un peu différente et fonctionner pareil, ou bien elle peut avoir une formule un peu différente et fonctionner mieux dans certaines circonstances, moins bien dans d'autres. Enfin, ça donne une idée, à peu près un quart à un cinquième des gènes sont assez significativement différents d'une personne à une autre. Alors, exemple au niveau des populations, un exemple qui est assez joli, c'est ce qu'on appelle l'activité lactase à l'âge adulte, c'est-à-dire la capacité de digérer le lait à l'âge adulte. Nous sommes des primates, donc des mammifères. Et chez les mammifères, normalement, les nouveau-nés sont capables de digérer le lait. Donc ils ont un enzyme qui s'appelle la lactase qui leur permet de digérer le lait. Et puis, cette activité disparaît au cours de la croissance et n'existe plus à l'âge adulte parce que normalement, un veau ou un petit singe n'a pas l'occasion de boire du lait quand il est adulte. Et c'est la même chose chez l'homme. Normalement, cette activité lactase disparaît à l'âge adulte et donc un adulte humain digère mal le lait. Sauf chez une bonne partie des Européens. Et ce que vous avez ici, c'est une carte de ceux qui digèrent, si vous voulez, le mieux le lait dans les populations européennes. Le rouge foncé correspond à une activité élevée de l'enzyme à l'âge adulte et le jaune clair correspond à une activité faible à l'âge adulte. Et ce que ça veut dire, c'est que, ce qu'on voit bien sûr, c'est que les zones rouges correspondent à des zones où l'élevage bovin et ovin a été important depuis les temps historiques, c'est-à-dire depuis 10 ou 15 000 ans. Et Ça veut dire que les individus chez lesquels il s'était produit une mutation conservant l'activité de cette enzyme à l'âge adulte, s'ils vivaient dans ces régions où l'élevage jouait un rôle important et où le lait jouait un rôle important dans l'alimentation des adultes, eh bien ces individus-là pouvaient profiter des apports caloriques, protéiniques du lait, et donc allaient mieux, et donc avaient plus d'enfants que ceux qui n'avaient pas d'activité lactase à l'âge adulte, qui ne pouvaient pas digérer le lait, à qui il fallait absolument de la viande ou des céréales. Et donc cette mutation qui est favorable dans un contexte d'élevage, s'est répandue dans ces populations-là et pas dans d'autres pour lesquelles l'élevage était une ressource tout à fait secondaire. Bon, un autre exemple tout à fait évident, qui est c'est celui de la couleur de la peau, qui est effectivement répartie. Ça, vous avez une mesure objective de la couleur de la peau par réflexion, et la répartition des populations d'origine selon la latitude qui suit, où la couleur foncée suit à peu près l'exposition au soleil. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes les mutants, enfin nous, gens à visage pâle présents ici, puisque nos ancêtres étaient africains, et donc nos ancêtres étaient certainement très très bronzés. Dans les populations vivant sous des latitudes élevées, donc dans lesquelles l'ensoleillement est plus faible, le fait d'avoir la peau claire favorise la synthèse de vitamine D qui est synthétisée, enfin dont la transformation se fait au niveau de la peau. Et donc si vous vivez en Norvège ou même en Allemagne, que vous avez la peau foncée, que vous n'avez pas une alimentation riche en vitamine D, vous risquez le rachitisme, alors que si vous avez la peau claire, vous allez fabriquer plus de vitamine D et donc échapper au rachitisme. Bien sûr, par contre, si vous êtes du côté de l'équateur, il vaut mieux avoir la peau foncée pour éviter les cancers de la peau liés à l'ensoleillement. Donc il y a des mutations moins extrême que la mutation albinos, mais aboutissant à une diminution de pigmentation de la peau, qui sont apparues dans toutes les populations, mais qui ont été sélectionnées dans les populations qui vivaient dans des conditions d'éclairement faibles. Et par-dessus, donc c'est relativement récent, on a pu à peu près estimer que ce sont des mutations qui sont apparues en Europe il y a seulement 15 à 20 000 ans. Donc c'est pas si vieux que ça. Et donc l'homme de Cro-Magnon, il était noir de peau. Et bon, il est possible qu'en plus de la sélection naturelle, se soit rajouté des critères de sélection au sein du groupe. L'humanité primitive, ce sont des petits groupes de chasseurs-cueilleurs et puis des fermiers primitifs, dans lesquels il y a d'une part une évolution qui s'est... Enfin, pardon, je reprends mon propos. Ce sont des petits groupes dans lesquels, comme dans beaucoup de sociétés animales, l'accès aux femelles est très restreint, et c'est le chef le plus fort, le plus reconnu, qui peut s'approprier les plus belles femelles, et bien sûr ce sont les enfants du chef qui ont le plus de chances de survivre dans les conditions extrêmement difficiles de ces sociétés. Et donc finalement, on peut avoir une sélection qui se fait assez rapidement en fonction des critères de beauté au sein de cette société. Alors, une autre question, toujours sur les conséquences physiologiques de cette diversité humaine, c'est la question des maladies. Alors, on dit beaucoup qu'il y a des maladies qui sont spécifiques de certains groupes humains, et bien sûr on sous-entend que cela montre que ces groupes ont une constitution génétique différente, et donc que ces groupes constituent en quelque sorte quelque chose qui ressemble à des races. Alors on trouve effectivement des différences notables, c'est en général des facteurs 2 ou plus, de fréquence de différentes maladies. Certaines plus fréquentes, alors de nouveau aux États-Unis, puisque les statistiques raciales existent, étant donné que la race est une catégorie statistique, donc des maladies soit qui sont plus fréquentes chez les Afro-Américains, soit qui sont plus fréquentes chez les Européens. Bon, il y a au moins une de ces maladies dans lesquelles on peut penser qu'il y a effectivement une intervention de la constitution génétique, c'est le cancer de la peau, puisque c'est lié à la sensibilité au soleil. Mais en fait, pour les autres, dans la plupart des cas, on n'a actuellement aucune preuve que les différences soient d'origine génétique. Et en fait, on a beaucoup d'indications que ces différences sont liées aux conditions de vie, aux habitudes alimentaires, au type de comportement dans ces différents groupes. Donc, si vous voulez, l'idée... Et bon, il y a un exemple, j'ai peut-être le temps d'en dire deux mots, qui a été largement débattu, qui est celui d'un médicament qui serait spécifique aux Noirs, qui s'appelle le Bidil, enfin Bidil. C'est un médicament qui a été commercialisé aux États-Unis pour l'insuffisance cardiaque. Et il a été présenté comme un médicament destiné spécifiquement aux Afro-Américains pour combattre, et il a été homologué comme tel par la FDA, qui est l'agence du médicament aux États-Unis, comme médicament contre l'insuffisance cardiaque spécifique aux Noirs. Alors en fait, c'est une histoire un petit peu compliquée, mais dont, si je résume l'essentiel, c'est qu'en réalité, pour des raisons commerciales, pour des raisons de brevet, ce médicament n'a été testé sous sa forme actuelle que sur des malades noirs. Parce que l'entreprise qui le mettait sur le marché possédait un brevet sur son utilisation chez les Afro-Américains. Mais que par contre, son utilisation sur la population générale était déjà dans le domaine public, donc pas intéressante pour une entreprise. Donc l'entreprise, mais c'est là où c'est un peu curieux, c'est qu'elle a eu l'accord de la FDA, de l'agence du médicament, pour faire le test de cette façon-là, a testé ce médicament uniquement sur des patients noirs. Ce médicament s'est avéré efficace et il a donc été homologué pour l'utilisation chez les noirs, puisqu'il avait été prouvé qu'il était efficace chez les noirs. Mais en fait, il n'a pas été testé dans ces conditions chez les Européens et il est peut-être tout aussi efficace chez les Européens. Donc, ce qui est pernicieux, c'est que ça a été fait pour des raisons purement commerciales, mais que du coup, ça induit l'idée que ça a été fait d'ailleurs avec un support enthousiaste des organisations militantes noires qui on a réussi à faire croire qu'enfin on s'occupait d'elles et de leurs problèmes de santé spécifiques, et que donc le fait que ce médicament soit commercialisé officiellement pour être utilisé chez les Noirs induit bien sûr l'idée que les Noirs sont bien autres que les Blancs, puisqu'il leur faut des médicaments spécifiques. Donc en réalité, alors il y a effectivement certaines maladies rares qui correspondent à des mutations fréquentes qui sont apparues il y a seulement 5, 10 ou 20 000 ans et qui sont du coup restées confinées dans certaines populations. Donc il y a effectivement certaines maladies génétiques rares qui sont présentes, par exemple, soit presque exclusivement chez les Juifs Ashkenaz, soit presque exclusivement chez les Asiatiques. Mais ce ne sont pas des maladies affectant l'ensemble de la population, c'est simplement des maladies rares dont la fréquence est beaucoup plus élevée, mais elle est peut-être de 1% dans ces populations que dans une autre population où elle va être de 1 pour 10 000. Donc je vais peut-être devoir m'arrêter et puis on passera aux questions. Il y a évidemment encore beaucoup de points à discuter. Donc l'humanité est effectivement bel et bien homogène et plus homogène que la plupart des espèces sauvages. Bon, bien sûr, les espèces domestiquées sont très homogènes parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour, à part le chien. Mais on peut quand même retrouver dans l'ADN, de façon assez objective, les traces d'une ascendance qui correspond grossièrement aux grands groupes géographiques. Et c'est bien compréhensible parce que ces groupes géographiques, ils ont évolué chacun de leur côté, même s'ils se sont passablement mélangés au cours de l'histoire. Il y a quand même une trace de cet isolement géographique. Cela dit, donc, ça n'a vraiment quasiment rien à voir avec la notion de race version intégrale que j'ai présentée au début. Et de toute façon, par rapport à la question du racisme, on est complètement à côté de la question. Donc je crois que c'était ma dernière diapositive. Oui, j'en ai une ou deux en réserve éventuellement, mais je vais m'arrêter là. Merci.
Alors, merci beaucoup. Et commençons par les questions. Peut-être pas toujours les mêmes. Ici, là. On vous donnera la parole, mais pas toujours les mêmes.
Excusez-moi, est-ce que l'ADN mitochondrial n'est-elle pas plus puissante pour déterminer les origines ancestrales que l'ADN humaine, enfin elle-même, enfin du gène du noyau?
Oui, merci de poser cette question, ça me permet de préciser les choses. Alors effectivement, j'ai parlé essentiellement d'analyses qui portent sur l'ensemble de l'ADN à l'aide des SNP, et c'est ce qui donne la meilleure vision globale de l'ascendance. Cela dit, on a fait beaucoup d'études d'ascendance en utilisant soit l'ADN mitochondrial, soit le chromosome Y. Alors l'ADN mitochondrial, donc, c'est un petit ADN qui est dans le cytoplasme de la cellule et qui nous provient exclusivement de notre mère, parce qu'il y a des mitochondries dans l'ovule, il n'y en a pas dans le spermatozoïde. Donc mon ADN mitochondrial provient forcément de ma mère, pas de mon père, et elle-même l'a eu de sa mère, et ainsi de suite. Donc en étudiant cet ADN mitochondrial, on accède, si vous voulez, à une lignée maternelle, mais uniquement la mère de 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 ma mère. Pas les autres mères, pas les autres grand-mères, pas les autres arrière-grand-mères. Donc c'est une vision, elle est techniquement plus facile que celle que je vous ai montrée. Elle a été utilisée depuis plus longtemps, mais elle est quand même relativement partielle. Elle est intéressante, mais elle est relativement partielle. Et de la même façon, le chromosome Y qui fait que je suis un homme, il me vient de mon père, qui le tient lui-même de son père, et ainsi de suite. Et donc, par le chromosome Y, on remonte à une lignée paternelle. Donc, on peut étudier une lignée paternelle, on peut étudier une lignée maternelle, et on peut aussi étudier l'ensemble de l'ascendance grâce à l'utilisation des SNP sur l'ensemble de l'ADN. Mais bien sûr, les mitochondries sont importantes et cette lignée maternelle est importante aussi.
Pas forcément le racisme. Dans ce domaine, les chercheurs américains sont moins frileux que les chercheurs français. Je pense que le chercheur français est plutôt limité, est-ce qu'il n'est pas prisonnier du passé, de la Première Guerre mondiale et des théories nazies. Donc alors tous les scientifiques cherchent justement à prouver qu'il n'y a qu'une seule race, et il y a le passé, donc la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi, puisque on continue à... On continue à coloniser des peuples qui sont différents et qui n'ont pas l'existence de race.
Oui, alors effectivement, je crois que je l'ai mentionné, la vision qu'on a de la question est nettement différente en France et aux États-Unis. La question raciale est une question qui est très importante et très présente, bien sûr, parce qu'il y a une importante population qui est issue des esclaves. C'est une notion qui a droit de cité, qui est présente dans les statistiques et qui est prise par pas mal de personnes d'une façon, dans une version atténuée par rapport à la version intégrale que je vous ai présentée. Bon, mais le problème avec ce mot, c'est qu'on ne sait jamais très bien dans quelle acception il est pris. En France, effectivement, c'est presque un tabou. Le terme est un tabou, je le mets entre guillemets parce que sinon il y a des personnes que ça choque. Et il est tabou au point que discuter les données que je vous présente ici, c'est quelquefois mal vécu, mal perçu. J'ai été accusé d'être un négrophobe obsessionnel ou une hyène raciste. Je ne crois pas vraiment que ça me décrive de façon adéquate. Donc c'est un sujet qui est difficile à aborder en France. Alors, je pense vraiment qu'il faut essayer de voir ce que sont les données actuelles, ce qu'elles montrent, ce qu'elles ne montrent pas, ce que c'est que la notion d'ascendance, et en quoi cette notion tout en montrant l'existence de grands groupes humains, est quand même extrêmement différente de ce qu'on met en général derrière le mot de race. Alors ce que vous mettez, vous, n'est pas la même chose que ce que je mets moi ou que ce que va mettre une autre personne, et c'est bien toute la difficulté.
Tout à fait, là. Ouais.
Je voudrais savoir ce que vous pensez, ici, des cartes que vous avez présentées sur l'activité lactase, par exemple. J'en ai rencontré d'autres sur les distributions des allèles, par exemple les groupes sanguins, ou HBS dans les zones paludéennes, enfin... est-ce qu'il est possible de recroiser ces cartes et d'avoir, de façon artificielle, mais de créer des groupes dans lesquels on peut retrouver certaines allèles spécifiquement ?
Oui, alors effectivement, avant que l'on dispose des moyens d'analyser l'ADN, on a essayé d'utiliser ce qui était connu comme polymorphisme dans... Alors, en fait, pas dans l'ADN à l'époque, mais dans les protéines humaines, c'est-à-dire les groupes sanguins, c'est-à-dire également les antigènes d'histocompatibilité. Et ce sont deux systèmes dans lesquels il y a des protéines, enfin, ou des sucres dans un certain cas, mais enfin, qui ont une assez grande variabilité dans l'espèce humaine et à partir desquelles on peut essayer de faire des études de population. Le problème, c'est que, comme... ces systèmes sont quand même relativement limités. Il y a, on regarde, si vous voulez, un nombre de points, un nombre de protéines ou un nombre de variants qui est assez faible, et on va beaucoup moins loin que dans les études actuelles sur l'ADN. C'est-à-dire, je pense que ce qui a pu être vu avec les anciens marqueurs polymorphiques qu'étaient ces protéines se retrouve dans ce qu'on voit au niveau de l'ADN. Mais au niveau de l'ADN, on peut aujourd'hui, on a les moyens de regarder 500 000 points dans l'ADN de 1000 personnes. Donc c'est incomparablement plus puissant et plus résolutif.
Tout à fait en haut. Au fond, en haut. Allez-y.
J'ai une toute petite question. En fait, j'aimerais savoir si l'homogénéité chez les humains n'est pas liée au fait que notre génome est plus élaboré par rapport aux chimpanzés.
Alors, est-ce que l'homogénéité chez les humains est liée au fait que notre génome est plus élaboré par rapport aux chimpanzés ? Je ne pense pas que notre génome, enfin notre société est bien sûr incomparablement beaucoup plus complexe, en tout cas, que les sociétés de chimpanzés. Au niveau du génome, la différence est assez minime. Hein. On est à 2 ou 3 % de différence par rapport aux chimpanzés, et c'est pas évident, si vous voulez, qu'un génome plus élaboré conduise à une plus grande homogénéité, à la limite au contraire, puisque plus un génome est grand, plus la probabilité qu'il y ait des mutations qui apparaissent est grande. Donc je ne pense pas qu'on puisse aller dans ce sens.
Oui, parmi les 20 000 environ gènes que vous avez indiqués comme étant ceux du génome humain, combien sont attachés à des caractères identifiés, déterminés, qu'ils soient physiques ou non physiques ?
Justement, c'est là un des points sur lesquels la vision qu'on avait des gènes et de la génétique est devenue beaucoup plus compliquée, beaucoup plus floue. Disons qu'on a fonctionné pendant un certain temps sur l'idée un gène, une protéine, un caractère. Actuellement, on s'est aperçu ensuite que les gènes étaient en morceaux dans l'ADN, qu'il y avait un gène était en plusieurs tronçons qui sont ensuite raboutés ensemble d'une façon assez compliquée. On s'est aperçu qu'il y avait des séquences qui jouaient sur la régulation, sur le fait qu'un gène soit allumé ou éteint et qui se situait en dehors de ces gènes. Donc on ne sait plus aussi précisément ce qu'est un gène. Et on s'est aperçu aussi que pratiquement tout ce qu'on peut identifier comme caractère physiologique ou d'ailleurs dans beaucoup de cas comme maladie est sous l'influence d'un grand nombre de gènes. Donc, finalement, par rapport à votre question, ce que faire. Bon, il y a effectivement quelques maladies génétiques qui sont celles qui sont les plus connues, mais ce sont aussi les plus simples, parce que comme ce sont les plus simples, c'est celles qu'on a réussi à élucider en premier. La myopathie du chêne, bon, ben, c'est une maladie qui est causée par un défaut dans un gène, toujours le même, qui est sur le chromosome X et qui peut avoir des manques ou avoir des mutations qui aboutissent à ce qu'une certaine protéine n'est pas fabriquée et que du coup les muscles se détériorent. Mais c'est ces maladies qu'on appelle monogéniques, qui sont liées au défaut d'un gène toujours le même, sont la minorité. Et pour la plupart des grandes maladies, ou d'ailleurs des caractéristiques, on arrive à trouver des gènes dont les variants ont une influence sur cette maladie, mais il y en a plusieurs, il y en a même beaucoup pour le diabète. Il y a des dizaines de gènes qui sont impliqués, dont on a démontré que la possession de tel variant, de tel gène, augmente le risque de diabète de 50%, et ça le fait passer de 5% à 7,5%, et ainsi de suite. Donc la relation directe, même la couleur de la peau n'est pas sous la dépendance d'un gène unique. Il y a au moins 5 ou 6 gènes qui contribuent à la coloration de la peau. Même la couleur des yeux n'est pas déterminée par un gène et un seul.
Oui, s'il vous plaît. Nous parlions de recherche tout à l'heure sur l'ascendance. Nous parlions de remonter les recherches sur l'ascendance. Jusqu'où pouvons-nous aller? Jusqu'où pouvons-nous aller sur la recherche de la cellule héréditaire, les cellules, les chromosomes héréditaires? Combien de milliers d'années ou de centaines d'années, ou même au-delà? Je me pose vraiment la question avec beaucoup de curiosité, s'il vous plaît, monsieur.
Si vous voulez dire jusqu'à quand peut-on remonter?
C'est cela même, oui.
Non, on peut pas remonter très très loin, puisque de toute façon, si on remonte... À 100 000 ans, on se retrouve forcément en Afrique, et si on remonte à 200 000 ans, on remonte à un hominidé, à un primate qui n'était pas encore l'homme moderne. Donc, en fait, ce que les études d'ascendance cherchent à retrouver, ce sont des ascendances relativement récentes à l'échelle de 5, 10 000, 15 000 ans. C'est l'histoire de la diversification de la population humaine. Parce qu'encore une fois, nous descendons tous d'un petit groupe, peut-être seulement de 10 000 personnes, qui sont parties d'Afrique il y a 60 000 ans et qui se sont répandues sur toute la Terre, qui, au fil de leur migration, il y a eu deux phénomènes qui se sont produits. D'une part, ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est-à-dire que quand vous avez une partie d'une population qui part pour aller s'établir plus loin parce que les territoires de chasse sont meilleurs, elle emporte avec elle seulement une partie de la diversité génétique du groupe, parce que vous avez 25 personnes qui partent dans un groupe de 500, mais elle n'emporte qu'une partie de la diversité existant dans le groupe. Et puis d'autre part, en fonction des endroits et des conditions dans lesquelles vivent ces populations, les personnes porteuses de certaines nouvelles mutations sont favorisées ou non, bon, la peau blanche ou l'activité lactate à l'âge adulte. Donc, mais tout ça, ce sont des choses qui se sont produites dans les 50 ou 60 000 dernières années. Donc c'est cette histoire-là qu'on regarde. Si on regarde trop loin, on remonte à l'ancêtre commun entre l'homme et les grands singes, il y a 8 ou 10 millions d'années. Et bon, c'est intéressant, mais c'est autre chose, c'est une autre question.
Le hasard a fait qu'aujourd'hui même, j'ai entendu un travail d'un nommé Luis Barreiro, qui est du CNRS, et qui disait ceci, nous avons tout d'abord constaté que la sélection, il parlait de la sélection naturelle du génome humain, et il disait ceci, nous avons tout d'abord constaté que la sélection négative a ciblé particulièrement les mutations changeant les acides aminés non synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire, les acides aminés non synonymes?
Alors, voilà, non, mais c'est tout à fait compréhensible. Alors, en réalité, dans l'ADN, donc l'ADN renferme la formule des protéines. L'ADN, il y a 4 lettres. Les protéines sont formées d'acides aminés, il y a 20 acides aminés différents. Donc vous avez un petit problème de correspondance avec un langage à 4 lettres. Il faut, d'une certaine façon, écrire des protéines dans lesquelles il y a 20 lettres. Et donc la façon dont c'est fait, dans l'ADN, c'est qu'il y a trois lettres dans l'ADN pour un acide aminé. Par exemple, ATG, ça veut dire l'acide aminé méthionine. Et si vous voulez, la formule d'une protéine est écrite dans l'ADN par une suite de lettres, mais en fait une suite de triplets. Chaque mot, si vous voulez, de trois lettres dans l'ADN signifie un acide aminé et va diriger l'insertion de cet acide aminé dans la protéine quand elle sera fabriquée. Alors, si on est d'accord là-dessus, l'étape suivante, c'est que, en fait, vous avez 20 acides aminés, vous les écrivez avec des mots de trois lettres, qui peuvent être T, A, C ou G. Ça veut dire, en fait, qu'il y a 64 mots possibles dans l'ADN. Il y a 64 façons d'écrire des mots de trois lettres. Donc, il y a trop, si vous voulez, de mots dans l'ADN pour écrire les protéines. Et donc, en fait, un acide aminé donné peut être codé de différentes façons. Il y a différentes façons d'écrire, pas méthionine, celui-là n'en a qu'un, mais d'autres acides aminés peuvent être écrits de deux ou trois ou quatre façons différentes. Et donc, une mutation non synonyme, là je réponds maintenant à la question de monsieur, c'est une mutation dans l'ADN qui change donc ce qui est écrit dans l'ADN, mais de telle façon que le mot signifie toujours le même acide aminé. Puisqu'il y a trois façons, par exemple, ou quatre façons d'écrire le même acide aminé, vous pouvez avoir un changement dans l'ADN qui va changer effectivement la suite des lettres dans l'ADN, qui va mettre un mot différent, mais un mot différent qui aura le même sens. Et donc c'est ça une mutation synonyme. Et c'est important parce qu'une mutation synonyme ne change pas la protéine. L'ADN a changé, mais la protéine est toujours la même. Et on constate effectivement dans l'évolution que assez souvent, les mutations synonymes ont été sélectionnées parce que justement, elles ne changeaient pas la protéine. Celles qui changent la protéine, les mutations non synonymes, eh bien, il y a un risque que la protéine changée ne fonctionne plus. Et que donc la personne qui porte cette mutation disparaisse ou en tout cas n'ait pas de descendance. Oui. Bon, je crois que c'est un peu compliqué à discuter. Il faudrait avoir les schémas, mais vous pouvez redire la phrase, juste la dernière.
Particulièrement les mutations changeant les acides aminés non synonymes.
Oui, la sélection négative, c'est celle qui élimine les porteurs de la mutation. Oui, la sélection qui élimine. Et c'est normal que ça joue surtout sur les mutations non synonymes, parce que les mutations non synonymes, c'est celles qui changent la formule de la protéine et qui peuvent faire, par exemple, que si vous portez cette mutation, vous êtes myopathe ou vous êtes hémophile. Donc ça, c'est relativement logique.
Oui.
La sélection positive, c'est possible qu'elle favorise également les mutations non synonymes. Disons que... Oui. Bon, il faudrait voir le texte et...
Je voulais vous interroger sur deux diagrammes. Je ne sais pas ce qu'ils représentent. J'ai bien compris ce qu'ils représentent, mais je ne sais pas comment vous les avez fait. Le diagramme dans lequel on voit apparaître les trois populations, la population noire, la population blanche et la population jaune, je ne sais pas ce que vous avez représenté qui vous a conduit à cette espèce d'arborescence. Et de la même manière, votre triangle dans lequel vous avez à un sommet l'afro-américain, l'américain, le blanc et le noir, pour simplifier, comment vous caractérisez les trois sommets?
Alors, l'arbre qui a trois branches, il a été effectué en analysant des ADN de populations qui sont bien définies, qui sont des populations aussi statiques que possible, aussi peu mélangées que possible, de façon à avoir un point de référence. Et c'est à partir de ces populations-là que l'on définit en gros, si vous voulez, les fréquences d'allèles dans ces populations, c'est-à-dire le surcroît d'un allèle d'un SNP par rapport à un autre pour chacun des SNP. Et donc, si vous voulez, en quelque sorte, ce sont ces trois populations-là qui définissent les trois coins du triangle. Et ensuite, on positionne les Américains autodéclarés noirs, blancs, mexicains par rapport à ces trois... Oui. Pardon ?
C'était un peu avant dans votre exposé, vous aviez une arborescence dans laquelle vous aviez toute une série de traits qui étaient relatifs à des Japonais ou à des Chinois, bien groupés, toute une série de traits correspondant à des Européens bien groupés, des traits correspondant à des Africains moins bien groupés, vous avez expliqué pourquoi, mais qu'est-ce que vous représentez ?
Ce qui est représenté, c'est une estimation de la distance génétique entre chacune de ces personnes et une origine commune. Et donc, ce qu'on voit, c'est que au lieu d'avoir, si vous voulez, tous une distance équivalente par rapport à une origine commune, ils se répartissent en grappes par rapport à cette origine. C'est une distance génétique en termes de présence de certains allèles sur un certain nombre de SNP.
Oui. C'est déjà tard et nous allons remercier Bertrand Jordan. Merci. Demain.